Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Oui, si, c'est moi qui avais.
Bienvenue sur cette antenne. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 Minutes Info. Le débat, c'est juste après le flash avec Mickaël Dorian aujourd'hui. Jean Messia est déjà hilar. Bon, ça promet pour la suite. Désolé, on a eu un petit problème de son, vous l'aurez compris. Alors, on va entamer le débat un petit peu plus tôt que prévu, mais on a des sujets très, très sérieux, bien sûr, à vous soumettre, à commenter ensemble. Merci en tout cas d'être là, d'être au rendez-vous sur ce plateau, ainsi que Ludovine de la Rochère. Bienvenue à vous. Et on accueille également Charles Zitzenstuhl. Vous êtes député Renaissance du Bas-Rhin.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on va parler politique, mais on va parler de la NUPES. La NUPES survivra-t-elle à deux affaires embarrassantes du moment, hein, déballage, embarras, donc position parfois ambiguë. Vous l'aurez compris, l'affaire Quatennens est en train de prendre une toute nouvelle dimension puisqu'on a appris il y a quelques heures que le parquet de Lille finalement ouvrait une enquête pour des violences suspectées contre l'épouse d'Adrien Quatennens. Et puis donc il y avait au même moment concomitamment cette conférence de presse de rentrée pour les députés LFI. Mathilde Panot, la sentie était plus que gênée face aux questions. Le résumé est signé Jeanne Cancard.
De l'embarras et un sentiment de malaise dans les rangs de la France insoumise au sujet de la première réaction de Jean-Luc Mélenchon à l'affaire Adrien Quatennens.
Nous avons un communiqué de presse qui a été fait par la coordination des espaces de la France insoumise dans lequel nous nous retrouvons toutes et tous.
C'est pas ma question, c'est sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon.
C'est ma réponse.
Alors que le député du Nord a reconnu de violentes disputes et une gifle à l'encontre de sa femme, Jean-Luc Mélenchon a réagi tardivement avec un premier tweet très critiqué dans lequel il apporte son soutien à Adrien Quatennens. 3 heures plus tard, deuxième tweet où il évoque cette fois-ci une gifle inacceptable et mentionne la victime. Mais c'est déjà trop tard, le malaise est là.
Est-ce que, pour une fois, vous l'avez trouvé déconnecté ?
Je pense que ce sur quoi nous voulons insister, c'est le fait que c'est l'expression politique qui a eu lieu ce week-end, notamment d'Adrien Quatennens, et a révélé une situation grave.
C'est dans ce contexte qu'une autre affaire vient embarrasser la France insoumise. Sur un plateau de télé, l'écologiste Sandrine Rousseau, issue elle aussi de la NUPES, met directement en cause Julien Bayou pour des violences psychologiques envers son ex-compagne.
Quand j'entends Sandrine Rousseau hier, par exemple, expliquer que la victime, qu'elle a reçu, en tout cas l'ex-compagne de Julien Bayou, qu'elle explique que cette femme a fait une tentative de suicide, je ne sais pas si cette femme a envie que toute la France soit au courant qu'elle a fait une tentative de suicide.
Hasard du calendrier, ce jeudi et vendredi, les députés de la France Insoumise assisteront à une formation obligatoire sur les violences sexistes et sexuelles pour préparer la rentrée parlementaire.
Bon, il y a évidemment beaucoup de choses à commenter là-dedans. Ludovine de la Rochère, le sujet est très bien fait. On va remercier et féliciter notre reporter parce qu'elle englobe bien tout ça. Déjà, c'est cette notion de malaise quand même qui est vraiment perceptible. Et puis après, on en viendra aux dissensions internes parce qu'on sent que ça tire à eu et à dia au sein même de ces formations politiques.
Oui, jusqu'à présent, Jean-Luc Mélenchon était absolument inattaquable. Il n'était jamais critiqué. Il était véritablement celui qui dit la parole et qui est suivi. Et là, c'était tellement énorme ce tweet qu'il a fait, qui essaye de renvoyer les torts aux policiers et qui fait part de tout son soutien à Adrien Quatennens.
Il se reprend, mais 3 heures plus tard. Il se sous la pression
sous
un
la
peu
pression
des réseaux.
Trois ans plus tard. Et donc son réflexe immédiat, c'est de soutenir Adrien Quatennens sans rien dire de son épouse et en cherchant à accuser et à déplacer le débat vers la police. C'était absolument indigne et évidemment d'autant plus venant d'un parti politique qui ne cesse de faire la morale sur le thème du wokisme et en particulier d'un certain néo-féminisme woke. Donc c'était particulièrement malvenu de la part de Jean-Luc Mélenchon. Et évidemment, ça suscite des déchirements internes majeurs. Ce sont des sujets fondamentaux pour eux.
Alors, il y a une question quand même, Jean Messia. La position d'Adrien Quatennens dans les circonstances actuelles est-elle tenable, sachant que maintenant, il y a quand même une enquête du parquet, donc ça prend des proportions autres. Sachant aussi, si on va un petit peu plus loin, avec ces logiques partisanes qui semblent présider à beaucoup d'indignation à géométrie variable quand même, on voit que c'est quand même Olivier Faure le premier qui avait demandé sa mise en retrait. Du côté de LFI, c'était un peu silence radio. Donc on voit aussi qu'à l'intérieur, chacun essaie de dire, bon, de défendre les siens, de défendre ses troupes. On se demande combien de temps, dans ces conditions, cette alliance peut tenir, s'envoler en éclats, quoi.
Moi, si vous voulez, j'ai deux positions assez différentes. La première, c'est que j'ai une position dans l'absolu qui consiste à dire qu'il ne faut pas tirer sur l'ambulance et il faut attendre la fin des enquêtes avant effectivement, d'accabler ou de condamner quelqu'un. Je ne suis pas de ceux qui disent que spontanément, la parole des femmes doit être prise en...
Non, attention, il le dit lui-même dans le communiqué.
Voilà, mais okay. Globalement, je parle globalement de ces accusations de violence sexiste ou sexuelle, il faut faire très attention. Il le dit lui-même. Maintenant, la position relative que j'ai, c'est que pacta sunt servanda, respecte la règle que tu édictes. La règle qu'a édictée la France insoumise, les écolos et tous les gauchos progressistes, c'est de dire qu'à chaque fois qu'en face, il y a quelqu'un qui est soupçonné d'une accusation de violence sexiste, on lui tire dessus à boulet rouge et on le pousse à la démission. Donc écoutez, très bien, si eux, ils ont eux-mêmes instauré cette règle au sein de LFI et de ELV, il faut qu'ils commencent par se l'appliquer à eux-mêmes. Oui. Parce que si vous voulez, comme dit le proverbe africain, quand on monte au cocotier, il faut avoir le postérieur propre. Donc on ne peut pas tirer sur les autres, sachant qu'on a la même chose chez soi, sans...
Oui, mais Jean, ils avaient mis en place un système qui leur permettait de régler en interne, un système qui est presque hors la loi, hein, ce comité...
Peut-être pas hors la loi, mais à côté de la loi.
Qui est à la limite. Non, mais en soi, il ne les pense pas comité. On peut toujours créer un comité Théodule, mais un comité qui, finalement, dans les faits, prétendait enquêter lui-même, recevoir lui-même, décider de qui était coupable ou pas lui-même et de sanctionner lui-même.
Non, mais juste, si vous voulez, je vais juste pas terminer mon propos, j'en ai pour une seconde. La conférence de presse à laquelle on vient d'assister, là, de la part de la France Insoumise, est tout à fait lunaire. On devrait leur délivrer une médaille d'or d'aviron. Parce qu'ils rament comme personne.
Ils ne savent pas quoi dire. On sent bien vraiment qu'ils ne savent pas quoi dire. Charles Zinzenstuhl, qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire ? Est-ce que vous êtes choqué du fait qu'ils soient plongés dans un tel embarras sans dénoncer avec les mots qu'il faut, en fait ?
Oui, moi, je suis choqué. Leur réaction, c'est vrai, de ce matin, je crois, est assez symptomatique parce qu'ils savent qu'ils sont coincés, ils savent qu'ils sont en train de défendre des positions et des personnes qui sont indéfendables, en l'occurrence M. Quatennens, parce que dans le cas de M. Quatennens, ce sont des faits de violence familiale, qu'il a lui-même d'ailleurs reconnu. Et ce qui est dérangeant dans cette affaire, c'est deux choses. Bon, la première, et c'est ce dont on n'a pas assez parlé, c'est qu'il y a une victime. Il y a quand même... eu des faits que M. Quatennens a reconnus qui sont d'une violence inouïe, parce que gifler une femme, a fortiori sa femme, son épouse, c'est quand même une barrière de comportement qui a été largement transgressée. Et par ailleurs, je crois qu'à travers Madame Quatennens, il y a, hélas, dans notre pays, des centaines de milliers de femmes qui se reconnaissent dans ce cas-là et qui a été en réalité quasiment balayé, nié par Jean-Luc Mélenchon. Et la deuxième chose, c'est ce que dit Jean Messia, c'est que la NUPES et cette gauche qui donne des leçons à la France entière sur le sujet notamment du féminisme, et ben, là, est pris à son propre piège.
Écoutez juste une séquence qu'on a retrouvée d'Adrien Quatennens parlant précisément de ces questions il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale.
118 qui depuis début de l'année 2019 ont été tués, soit par leur conjoint ou, et c'est aussi largement l'objet de notre discussion actuelle, leur ex-conjoint. La question que je me pose à cette heure et que la représentation nationale se pose également, c'est combien de ces cas aurions-nous pu éviter ? Parmi ces 117, 118 femmes, une proportion significative d'entre elles avaient porté plainte, avaient déposé des mains courantes. Il y a donc parmi ces 118 féminicides un nombre significatif de cas qui étaient prévisibles et qui n'ont pas été prévenus.
Jean Messia, effectivement, ça met encore plus mal à l'aise quand on regarde a posteriori cette séquence qui en réalité date d'octobre 2019.
Oui, alors si vous voulez, le problème c'est que plus généralement, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on prononce des accusations et qu'on lance le haro sur les autres, il faut effectivement être soi-même assez exemplaire. Mais je dirais que le contexte, pour élargir un peu le débat, le contexte actuel va vers une judiciarisation de plus en plus importante de la vie de couple. Parce que si vous voulez, dans quel couple finalement on ne se dispute pas, et lorsqu'on en arrive à des procédures de divorce ou etc. qui peuvent être très conflictuelles, il n'y a pas de violence de part et d'autre. Aujourd'hui, vous avez aussi des femmes qui peuvent être violentes. Dans le cadre d'un couple, vous avez une femme qui peut, gifler son mari ou qui peut lui envoyer quelque chose en travers de la figure. Et à ce moment-là, rarement l'homme va porter plainte contre sa femme, si vous voulez. Donc il faut aussi, alors je dis, c'est pas pour justifier ce qu'a fait Katnins, mais ce que je veux dire, c'est que globalement,
c'est le lot de beaucoup de Français.
C'est le lot de beaucoup de Français. Je pense que dans les cas conflictuels, les hommes peuvent aussi recevoir une décharge de violence, sauf que dans ce cas-là, finalement, non seulement ils ne vont pas porter plainte, mais quand ils vont porter plainte, il y a une forme de retenue ou une forme de honte à le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on voit ce que devient finalement LFI et EELV de manière générale sur les rapports hommes-femmes, ça devrait être des parties qui doivent être réservées aux femmes ou aux LGBT, du coup. Parce que, si vous voulez, il ne fait plus bon être un mâle blanc dans ces parties-là, puisque si vous ouvrez, si vous laissez passer une femme en premier, ou si vous la laissez entrer en premier dans l'ascenseur, vous êtes presque.
Mais je suis pas sûr que ce soit le débat du jour. Et je pense
Peut-être pas le débat du jour, mais c'est le débat
c'est
de cette question-là de manière générale.
Mais Ludovine de la Recherche sera pas d'accord avec vous, je pense.
Oui, je suis pas à l'aise avec ce que vous dites, Jean Messia. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger et il faut faire très très attention aux propos que l'on peut tenir sur cette affaire. Ce qui est vrai, c'est qu'on est confronté à un parti politique avec par exemple Sandrine Rousseau qui sur ce sujet est devenue très médiatique. Et pour moi la difficulté, c'est qu'elle confond des cas malheureusement trop fréquents qui s'expliquent par plein de raisons très simplement humaines, de force physique. Les femmes, elles peuvent parfois en effet attaquer leur mari. Il y a une association des hommes battus d'ailleurs, mais c'est souvent des violences.
Parle.
Et ça n'est pas normal. Ce sont plutôt des violences d'ordre psychologique. Ce qui est compliqué, c'est que là, il y a une violence bien réelle et qui est inacceptable. Mais moi, ce que je crains, c'est cette interprétation qui consiste à croire et à dire que la société patriarcale, que les violences sont systémiques, que tous les hommes sont violents. Et là, il dérapage, et là, il la dérive à partir de faits bien réels, mais qui ne sont pas d'ordre lié à une quelconque domination, qui ne sont pas liés à un supposé patriarcat aujourd'hui dans la société française, en tout cas dans la société de culture française.
Et puis, je vous le disais, il y a une autre affaire. Sandrine Rousseau qui a dit sur France 5 avoir reçu chez elle une femme, en l'occurrence l'ex-compagne de Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, avec des comportements, selon elle, de nature à, je la cite, à briser la santé morale des femmes. Ça a donné lieu aussi à une sorte de passe d'armes avec Clémentine Autain. Je vous propose d'écouter ce qu'elle a dit, Sandrine Rousseau.
J'ai reçu très longuement, et je me suis entretenue vraiment très longuement, je l'ai reçu chez moi, l'ex-compagne de Julien Bayou. Je pense qu'il y a des comportements qui, en effet, sont de nature à briser la santé morale des femmes. Au moment où j'ai reçu cette femme, elle était dans un état vraiment très, très déprimé, voire vraiment très mal, quoi. Très très mal. D'ailleurs, elle a fait une tentative de suicide quelques semaines après, tellement elle allait mal.
Charles Sizenstuhl, il y a plusieurs sortes de violences, on le rappelle. Les violences psychologiques, l'emprise, le harcèlement moral aussi font partie des violences qu'on inflige. Ça commence à être pris en compte dans les procédures judiciaires. J'imagine qu'elle parlait plus de quelque chose de cet ordre-là, si on interprète un petit peu ses propos. Mais plus globalement, est-ce qu'il y a une forme de légèreté aussi de sa part, dans le sens où elle dit ça aujourd'hui comme une sorte de grand déballage, mais sans avoir pour autant, à l'époque, alerté...
A-t-elle porté plainte
Voilà, c'est ça, alerté les services
nécessaires. Article 40, elle en avait l'obligation.
C'est clair que là, dans la séquence de Sandrine Rousseau avec Julien Bayou, tout est dérangeant. C'est-à-dire, moi, j'ai vu les images il y a quelques heures et j'étais vraiment mal à l'aise parce que ce qui est relaté, et je reste très prudent de ce que pourrait avoir été le comportement de Julia Bayou, est encore une fois dérangeant au regard du parti auquel il appartient et qui était un donneur de leçons professionnelles sur tous ces sujets. Mais je reste encore une fois prudent parce que là, Mme Rousseau ne s'avance pas trop. Ce qui est dérangeant, c'est aussi la légèreté avec laquelle Mme Rousseau s'exprime comme ça sur dans une émission
comme
grand
public. Comme si une anecdote lui revenait en tête.
Ce qui est dérangeant, c'est effectivement de déballer comme ça sur un plateau télévisé une partie... de la vie intime d'une femme qui, je pense, n'a pas demandé à être désignée ce soir-là. Tout est dérangeant. Et sur ce sujet des violences familiales, nous sommes quand même dans un état de droit. Et c'est ça qu'il faut rappeler. Et que le code pénal, que j'ai relu, moi, il y a quelques jours suite à l'affaire de M. Quatennens, le code pénal est quand même assez bien écrit dans notre pays sur ces sujets-là. Il y a des qualifications extrêmement précises, il y a des jurisprudences qui existent. Donc, si des faits pénalement répréhensibles ont été faits, que les personnes qui le savent, et notamment si elles sont détentaires d'une autorité, le fassent savoir auprès de la justice, il y a effectivement cet article 40 auquel tous les acteurs publics ou les élus sont soumis, et qu'ensuite la justice fasse son travail.
A priori, elle ne l'a pas fait.
Manifestement.
Et c'est une forme
d'aide. Mais je pense que, bien entendu, suite aux révélations, M. Bayou, bien sûr, je pense, devra donner des explications, mais aussi Mme Rousseau, parce que c'est absolument consternant. Et si Mme Rousseau savait ces faits qu'elle estime graves, puisqu'elle les dévoile à la télévision comme ça un soir de grande écoute, si elle le savait, mais qu'en même moment, elle a aidé Julien Bayou à devenir président de groupe, là, c'est un vrai sujet politique.
Ludovine de la Rochère, une petite réaction à cette affaire Bayou également.
Oui, effectivement, Mme Rousseau dévoile des vies privées, dévoile des confidences, elle donne des noms, c'est absolument stupéfiant, des faits, elle se sent visiblement inattaquable et elle se positionne en juge arbitraire. Et j'allais dire, cela rejoint la démarche de ce comité pour les violences sexistes et sexuelles qui a été mis en place au sein de la NUPES, enfin de LFI, pardon. Je disais que c'était presque hors la loi, non pas dans le fait, encore une fois, de constituer un comité, mais de se croire elle-même ou de se croire eux-mêmes institués dans un rôle de justicier. Il y a un petit côté tribunal révolutionnaire, et en fait, ou même pire, tribunal bolchevique, je ne sais pas comment dire. Et d'ailleurs, dans le déroulé des faits, on voit bien que certains ont été... il y a eu 27 personnes... qui ont été nommés comme étant possiblement auteurs de faits auprès de ce CVSS. Certains ont été éloignés de LFI, d'autres très proches de Jean-Luc Mélenchon n'ont pas cette difficulté. Enfin, il y a quelque chose
qu'on fait justice interne et qu'on lave son linge sale entre
eux. Oui, enfin... Et ce sont des élus, et pour un certain nombre, ils sont députés.
Cette hypocrisie à laquelle on assiste aujourd'hui, de ces formations politiques, est-ce que ça va vraiment entacher leur travail et surtout entamer leur légitimité à pouvoir s'exprimer sur un quelconque sujet désormais?
Alors, je pense que la problématique qui est celle de ELV, et notamment de Sandrine Rousseau, est un peu différente de celle de LFI, dans le sens où Sandrine Rousseau a évidemment une stratégie en tête. Je veux dire, il ne faut pas être hypocrite. Sa stratégie, c'est de prendre la direction de ELV qu'elle juge trop timorée, pas assez radicale. Ouais. Donc, elle avait déjà pourri, rappelez-vous, la campagne de Yannick Jadot. Aujourd'hui, elle s'en prend à Julien Bayou, qui avait soutenu Yannick Jadot en son temps. Donc il semblerait qu'en fait Madame Rousseau soit passée de l'écoféminisme à l'éco-dégagisme au sein de son mouvement. Voilà. Et c'est très clair. Je veux dire, il faut aussi, si on essaie de prendre la signification de toutes ces réactions, de la manière dont elles s'attaquent aux uns ou aux autres, ça peut pas être neutre.
Elle est certainement ambitieuse, ça c'est clair. Mais moi je pense que c'est une fanatique qui est sans limite et qui se croient véritablement tout permis, y compris d'aller piétiner des vies privées et des confidences qui lui ont été faites. C'est saisissant.
Mais parce que quand elle veut prendre la direction du mouvement, madame, la fin justifie les moyens.
Et là, alors, il se retrouve, la NUPES se trouve en parfaite contradiction et donc extrêmement divisée, puisque pour les unes, c'est insupportable, elles n'ont cessé de dénoncer. Pour les autres, c'est officiellement insupportable, mais en fait, ça ne les gêne pas tellement, qu'on fait le premier tweet de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, évidemment, ça ne peut conduire entre eux qu'à des difficultés immenses.
Charles Zizensoul, en plus de n'avoir rien fait, elle prend le risque, là, elle court le risque, dans les circonstances actuelles, de se faire poursuivre pour diffamation, pour calomnie aussi. Enfin, je veux dire, il y a
plusieurs... Non, mais c'est sûr que ce qu'a dit Mme Rousseau hier est grave au sens premier du terme, c'est-à-dire que c'est une petite bombe qu'elle a lancée hier soir.
Mais c'est pas la première.
Et j'espère pour elle qu'elle sait ce qu'elle faisait et que effectivement les faits qu'elle a pu reprocher, enfin j'espère pour elle, hein, sont bien avérés. Mais c'est vraiment gravissime, c'est choquant. Et encore une fois, parce que quand même, la vraie question qui se pose derrière tout ça. Là, on discute de partis, de personnalités politiques qui sont, bon, en réalité, pas très importantes pour ce qu'elles sont. Parce que le grand sujet, quand même, derrière tout ça, c'est les violences dans notre société et les violences familiales en particulier. Et je ne sais pas si la façon dont ces sujets sont abordés depuis quelques jours vont aider victimes,
ça va pas aider la
les
cause.
Victimes ouais. de ces violences ouais. Mais... dans les familles. À libérer la parole, à aller dénoncer les agresseurs et les oppresseurs ou les personnes qui les maintiennent dans des états d'emprise, parce que c'est bien sur ce sujet que notre société doit faire des progrès.
Oui, mais alors pardonnez-moi, justement, les propos que vous tenez d'oppresseurs et d'opprimés dans toute notre société, etc. D'ailleurs, Daniel Obono a parlé de tous les Français qui portaient la responsabilité. Justement, moi je pense que ces théories woke, ces théories qui pensent que tout cela est systématique et que l'homme tient le pouvoir et qu'il domine toutes les femmes.
Moi j'ai pas dit ça.
Non, mais vous n'avez pas dit ça, mais il y a quelques mots qui rappellent fortement, en tout cas il faut être précis, cette idéologie. Or, on le voit très bien avec la NUPES, enfin avec LFI, pardon, en particulier, cette analyse est tellement faussée, tellement à côté du réel, qu'elle ne peut pas s'attaquer aux causes du problème, qui sont d'abord des questions d'éducation. On ne frappe pas une femme, on ne frappe pas un enfant, on ne frappe pas un homme. Et vous faites un autre amalgame, vous parlez de violences familiales. Cela me choque, oui, ce sont des violences conjugales, ce sont malheureusement des violences qui interviennent dans la vie quotidienne, donc c'est exact, dans les familles, mais
elles
aussi
sont quand
dans
même
les entreprises et aussi ailleurs.
De violences intrafamiliales.
Oui, c'est exact.
Ça entre dans cette catégorie.
Mais c'est aussi dans l'espace public, c'est aussi dans la rue, c'est aussi parfois dans les entreprises. Alors là, c'est un peu différent, mais encore, ce sont aussi des formes de harcèlement. Et attention, je trouve que très souvent, l'on jette le bébé avec l'eau du bain. Il ne s'agit pas d'attaquer, par exemple, tous les hommes, les entreprises ou la famille.
Je n'ai pas dit ça.
Non, mais je dis simplement attention. Il s'agit d'attaquer des comportements de personnalités qui n'ont pas appris à se contrôler.
On voit quand même que c'est un sujet
et à savoir,
sensible. Sur lequel
tenir leurs pulsions.
Sur lequel on a du mal à avoir des positions tranchées. On sent bien à chaque fois le risque de dérapage à chaque fois qu'on s'attelle à ces questions. Parce que j'insiste aussi sur les blessures qui parfois ne laissent pas de traces, les violences psychologiques et qui ne sont pas assez prises en compte.
Toute la problématique, si vous voulez, consiste à ne pas nier la violence qui est faite aux femmes, tout en faisant très attention à la manière dont ces violences peuvent être instrumentalisées par certaines femmes pour arriver à certaines fins. Moi, quand j'entends dire que la parole d'une femme doit être prise pour argent comptant sans aucune vérification pour la simple raison que c'est une femme, je trouve que ce propos est très sexiste, précisément parce qu'on réserve, je dirais, une théorie aux femmes qu'on n'élargit pas aux hommes. Comme si une femme était un enfant et qu'il fallait la croire sur parole.
Du principe qu'il y a une forme d'angélisme chez toutes les femmes.
Si on accepte l'idée que la femme est l'égale de l'homme, si la femme est l'égale de l'homme, elle peut être manipulatrice, elle peut être menteuse, exactement comme un homme.
Vous avez raison.
Voilà. Rappelons que pour Madame Rousseau, pour Sandrine Rousseau, l'homme qui est acceptable, c'est l'homme déconstruit. Et encore, elle considère qu'il y a des hommes qui peuvent être finalement déconstruits et donc acceptables. Parce que
Madame Sandrine Rousseau devrait aller bosser chez Lego, si vous voulez.
L'arrière-plan, c'est aussi
l'homme déconstruit.
Que les hommes sont par essence coupables.
Je ne sais pas ce que ça veut dire, l'homme déconstruit.
Il y a une véritable essentialisation. Les hommes sont par essence coupables. Et Madame Obono dit tous les Français sont concernés. Les femmes sont par essence des victimes. C'est faux. C'est
Alors on va s'interrompre.
C'est comme
les racisés. On va marquer une petite pause et puis on reviendra pour parler de ces femmes iraniennes et de cette petite phénomène qui est en train de naître en Iran, avec ces femmes qui en viennent à brûler leur voile pour protester contre la mort d'une des leurs, une jeune femme arrêtée par la police des mœurs et qui est morte sous ses coups. On va en parler tout à l'heure.
La deuxième partie de notre émission, je suis ravie de vous retrouver pour la suite de 90 minutes info. Avant de débattre à nouveau et de partir voir ce qui se passe du côté de l'Iran, un point sur le reste de l'actualité. Et plus près de nous, il y a ce procès de Muhittin Ulug qui a débuté hier dans l'Oise. Je vous rappelle que cet homme avait assassiné le petit ami de sa fille, Julien Videlaine, d'une vingtaine de coups de couteau. C'était en 2014. Alors cet individu, il est naturalisé français, il est d'origine turque et il refusait à l'époque que sa fille soit en couple avec un Français. Aujourd'hui, certains parlent de ce qu'ils appellent un crime d'honneur. Je vous propose d'écouter le témoignage de la sœur de la victime, c'est Anaïs Videlaine, qui était à notre micro ce matin.
Il ne nous regarde pas, il a toujours la tête baissée, il n'assume pas. Son discours n'a pas changé, il justifie sa colère, il justifie sa haine à l'encontre de mon frère. Il ne se remet pas du tout en question malgré les 8 ans du fait. Et il essaye de défendre sa cause, donc pour réduire sa peine au maximum.
Un phénomène récurrent dans les campagnes françaises, les vols des exploitations agricoles. En Mayenne, par exemple, il y a un éleveur qui vient de subir 6 vols, vous avez bien entendu, 6 vols en l'espace de 2 semaines. Alors au-delà du préjudice et du stress engendré, il estime lui que dans le monde rural, comme à la ville, on a le droit à la sécurité. Et il veut même alerter les pouvoirs publics à ce sujet. C'est pour ça qu'il en a profité. Il a profité du passage de Michaël Chaillou pour dire tout ce qu'il avait sur le cœur. Écoutez.
Un quad, des tronçonneuses, des débroussailleuses et même 250 litres de carburant. Voici le butin non exhaustif des cambriolages à répétition sur la ferme de cet éleveur mayennais, et ce, en un temps record.
On a été visité 6 fois, donc du 25 juillet au 9 août. Un préjudice d'environ 5000 euros et je suis remboursé d'une partie, mais bon, il y a toujours des franchises et voilà, c'est compliqué.
Le couple d'agriculteurs vient de lancer une pétition qui a recueilli une centaine de signatures pour sensibiliser le monde agricole et alerter les pouvoirs publics. Pour eux, il n'y a pas assez de gendarmes.
La dernière nuit, nous, quand on a appelé, il y avait une patrouille pour tout le sud Mayenne. Ils ne peuvent pas faire de miracle. Malgré toute leur bonne volonté, à une patrouille, c'est pas possible.
Depuis le début de l'année, c'est 10% d'occupation de la voie publique en plus, rétorque le patron des gendarmes de Mayenne. Dans le même temps, il ne nie pas que les vols en milieu rural ont augmenté et qu'il ne s'agit pas toujours de petits voleurs à la sauvette.
Ces délinquants font partie de filières très organisées, avec des équipes chargées de voler et d'autres qui sont chargées d'écouler le matériel, voire de le faire sortir du territoire national.
Le maire de la commune a écrit au ministre de l'Intérieur pour obtenir des renforts de gendarmerie. Les éleveurs mayennais ont installé une caméra de surveillance sous leur hangar et ont acheté un deuxième chien de garde.
Et puis on en parlait à l'instant, la France insoumise est plus que dans l'embarras. En pleine conférence de presse, on a senti que les députés avaient du mal à s'exprimer sur ce qu'il convient d'appeler maintenant l'affaire Quatennens. Et puis d'autres ont souhaité réagir dans les rangs de l'Assemblée. On pense par exemple à Sébastien Chenu, député du Rassemblement National du Nord, et Jean-Paul Mattei, député Modem et indépendant des Pyrénées-Atlantiques. On les écoute.
On voit que la France insoumise, qui toute l'année donne des leçons à tout le monde sur la façon dont il faut se comporter, à des jugements moraux, eh bien là, on est assez loin de MeToo, on est assez loin des grands discours de protection des femmes, on est assez loin des propos, des admonestations de Mme Autain et autres lorsqu'il s'agit d'adversaires politiques.
Je suis contre le fait que l'on commente, même à travers des tweets, une situation personnelle familiale. Je trouve que c'est désastreux dans tous les sens. C'est à lui de prendre sa décision. Moi, je ne commenterai pas. C'est tellement personnel.
Enfin, pour Bruno Le Maire, il n'y aura pas de passage en force sur la question des retraites, même s'il la juge nécessaire, cette réforme. Il faut, selon lui, convaincre, expliquer. Vous voyez sur ces images, il était en déplacement à Saint-Quentin en Yvelines à l'occasion du Big Tour. C'est un festival d'entrepreneuriat de BPI France. Alors justement, a-t-il convaincu les entrepreneurs présents? Réponse avec Éric Dridmaten.
Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
C'est la grande inquiétude des chefs d'entreprise ici lorsque l'on parle des tarifs de l'énergie. Nous les avons rencontrés toute la journée. Vous voyez, ils sont là, ils s'en renseignent, ils s'informent. Bruno Le Maire était ici tout à l'heure. Il a promis deux choses. D'abord, des rencontres en haut lieu pour casser cette spirale infernale de hausse des prix des tarifs de l'énergie. Il a promis des rencontres avec les hauts responsables allemands, avec également la commissaire européenne, Mme Vestager. Et puis, deuxièmement, les aides vont être simplifiées. Il promet d'apporter de l'argent au pot, d'aider les entreprises les plus fragiles pour baisser les prix de l'énergie pour cet hiver, parce que les entreprises que l'on a rencontrées ici au Festival des entrepreneurs à Saint-Quentin en Yvelines se demandent comment ils vont faire pour payer les factures. J'ai des exemples très concrets, par exemple pour la fabrication d'un verre. Vous savez, quand vous buvez de l'eau avec un verre, ça représentait 10% l'énergie jusque-là. Maintenant, ça représente 40%. On mesure le poids des factures électriques dans la production en France. Et quand on dit sobriété, ça ne veut pas dire, bien sûr, baisse de production. Et donc, les chefs d'entreprise réclament d'urgence des mesures au gouvernement.
C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
Suite de notre débat, toujours avec mes invités, on va partir en Iran avec la tension qui ne redescend pas depuis la mort de Mahsa Amini, cette jeune femme qui avait été arrêtée par la police des mœurs. Plusieurs manifestations ont eu lieu ces derniers jours à travers le pays. Des femmes qu'on voit, on va le voir sur ces images bientôt, qu'on voit brûler leur voile. C'est un symbole fort, évidemment, dans la République islamique iranienne. Depuis la révolution de 79, je vous le rappelle, la charia impose aux femmes de porter le voile ainsi que des vêtements amples. Regardez le résumé de cette affaire qui commence à prendre des proportions un peu inédites, hein, dirons-nous, puisque vous allez voir qu'il y a beaucoup d'hommes qui manifestaient à leur côté. Le tout signé Quentin Griebel.
Elle est la victime de trop en Iran. Depuis vendredi dernier, une partie de la population est dans la rue pour rendre hommage à Mahsa Amini et protester contre la police des mœurs. La jeune femme de 22 ans est morte le 16 septembre. Arrêtée par la police de Téhéran parce qu'elle portait mal son voile, elle aurait succombé à une crise cardiaque selon le gouvernement. Une version mise en doute par beaucoup d'Iraniens qui croient en la thèse des violences policières.
Ce comportement de la police des mœurs n'est pas normal. Cette unité cause des morts. Je ne crois pas que ça colle avec les valeurs de l'islam.
Je suis contre cette police. Elle veut faire respecter les valeurs de notre religion par la force. Ce n'est pas possible.
La mobilisation prend également de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Sous le hashtag Mahsa Amini, beaucoup de femmes témoignent leur contestation. Certaines brûlent leur voile, d'autres ont décidé de se couper les cheveux. Pour faire la lumière sur ce drame, le président iranien Ebrahim Raisi a demandé l'ouverture d'une enquête.
J'aimerais aussi qu'on voit la réaction officielle de la France. C'est important dans ce contexte où on ne sait jamais si un basculement est possible dans un pays à la faveur de ce genre de manifestation. Le Quai d'Orsay qui nous dit l'arrestation puis la mort de Mahsa Amini à Téhéran aux mains de la police des mœurs iraniennes sont profondément choquantes. Et puis un deuxième carton, la France qui condamne ces violences qui ont entraîné la mort et présente sincères condoléances à sa famille. Charles Cizenstoul, je rappelle que vous êtes député Renaissance du Bas-Rhin. Je me tourne vers vous. Il se passe quelque chose aujourd'hui du côté de la population. Je le redis, parfois il suffit d'une étincelle.
Ah oui, il est en train de se passer quelque chose dans la société iranienne. Je pense qu'on est tous émerveillés par le courage de ces femmes et aussi de ces hommes, d'ailleurs, très présents dans les manifestations. C'est probablement la mort de trop. Et il est important de voir que la lutte contre l'islam radical, il se passe d'abord dans les pays musulmans. Mmh. Et que, enfin, majorité musulmane pour être plus précis. Et que ce régime iranien qui depuis un peu plus de 40 ans contrôle l'Iran est un régime qui est contesté par une bonne partie de la population, de la jeunesse, et que cette idéologie islamiste chiite au pouvoir depuis 40 ans en Iran est en réalité plus fragile qu'on ne le pense. Et vraiment, on espère que ces manifestations iront au bout et que ce qui est en train de se passer en Iran est quelque chose de très important pour le monde entier et dans la lutte que les démocraties doivent mener contre l'islam radical.
On a vu il y a une dizaine, quinzaine d'années, des jeunes se soulever en Iran, vous s'en souvenez, la révolution avec les téléphones portables. Il y avait une tentative qui avait été finalement éteinte. Pourquoi je vous pose la question à nouveau aujourd'hui? Parce que j'ai vu que des députés iraniens, qui sont sans doute quand même pas les plus hostiles, on va dire, au régime, se démarquent aujourd'hui de la police des mœurs, prennent leur distance et disent « Attention, ça va trop loin, il faut que ce régime desserre les taux réellement ». Là, maintenant, c'est urgent.
Vous savez, le régime iranien ne desserrera jamais l'étau parce qu'ils ont en tête l'expérience de l'Union soviétique et de Gorbatchev. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une dictature qui commence à desserrer l'étau, elle libère en réalité une force de liberté et de progrès qui finit par l'emporter. Moi, je m'étonne, si vous voulez, que les gauchos-progressistes français, quand ils réagissent à ce qui se passe en Iran, qualifient de liberté et d'avancée et de progrès en Iran l'exact contraire de ce qu'ils font métier de promouvoir en France. C'est-à-dire qu'en France, oui, ils vous disent que porter le voile, c'est la liberté, porter le voile, c'est le progrès, porter le voile, finalement, c'est une forme d'émancipation des femmes puisqu'elles le veulent.
Mais alors, même, la soumission.
Alors même que quand il s'agit de l'Iran, ils tiennent le discours exactement opposé. Moi, j'aimerais bien que Sandrine Rousseau, que Clémentine Autain, que Caroline De Haas, tous ces féministes attitrés qui ne cessent de nous donner des leçons sur l'émancipation et la liberté des femmes, réagissent à ce qui se passe en Iran.
C'est vrai, vous me direz, pas beaucoup entendu.
Vous me direz, elles sont en train de s'exciter sur le sexe des barbecues. Mais ça c'est une autre histoire. La deuxième chose, c'est que aux côtés de cette histoire de Masha qui a été tuée pour son voile, il y a deux semaines, deux lesbiennes iraniennes qui ont été condamnées à mort pour promotion du vice, promotion du christianisme et propagation du mal sur la terre. Je cite le motif de la condamnation. Mais et tout ça au nom de l'islam. Imagine-t-on dans un pays extrémiste bouddhiste ou dans un pays extrémiste chrétien, et je ne parle même pas d'Israël, où là, c'est beaucoup plus tolérant vis-à-vis de ces sujets, de telles condamnations avoir lieu, jamais de la vie. Ce qui fait dire qu'effectivement, l'islam n'est pas une religion comme une autre dans la mesure où elle génère un fanatisme qui est beaucoup plus mortifère que d'autres religions qui peuvent exister au sein de la planète. Et moi, je crois qu'effectivement, on ferait bien de s'inspirer de ce qui se passe en Iran de manière particulière et dans le monde musulman de manière générale pour faire très attention à ce qui est en train de se passer en France, parce qu'en France, l'islam de France est en train d'être traversé par les mêmes velléités radicales que ce qu'on constate à l'étranger. Donc il faut que ces élites hypocrites qui ne cessent d'encourager et de mettre de l'huile sur le feu et d'arroser l'islam radical en France pour le faire pousser, eh bien, il ferait mieux de regarder à deux fois ce qui se passe ailleurs avant de faire ça.
Ludovine de la Rochère, là aussi, puis on parlait de silence pesant. Il est un peu pesant, ce silence de nos politiques, de nos représentants?
Alors, il est très pesant. Rappelons-nous d'abord qu'Emmanuel Macron avait félicité une jeune femme parce qu'elle portait le voile et sans lui poser aucune question, sans rien savoir de son histoire et d'elle-même, il lui avait dit que c'était un signe de liberté, qu'elle était une femme libre et que c'était magnifique, ce qui était absolument stupéfiant. Et alors évidemment, il était en plein clientélisme électoral, c'était juste avant la présidentielle. L'autre chose, c'est que ce silence des féministes, enfin des néo-féministes, par exemple, on pourrait prendre en effet le cas de Sandrine Rousseau, il s'explique. Dans la théorie woke, il y a quand même l'idée que les musulmans sont des victimes, donc ils sont des alliés des woke, ils sont des victimes comme le sont toutes les femmes, comme le sont tous les LGBT, comme le sont tous les racisés. Et du coup, il n'y a pas, dans le système de pensée, dans cette idéologie, il n'y a pas de dénonciation de telles dérives qui sont quand même spécifiques à l'islam, dans lequel les femmes sont soumises, elles sont dominées, elles sont couvertes, elles n'ont pas de place dans l'espace public, etc. Après, plus ou moins selon les pays. Et à tout le moins, puisque la France a communiqué, on aurait aimé que la France appelle les jeunes femmes qui aujourd'hui portent le voile, par solidarité avec celles qui sont obligées de brûler leur voile, par solidarité avec cette femme, exactement, par solidarité avec ces femmes qui courageusement et à visage découvert se coupent les cheveux, eh bien, qu'on appelle à renoncer au voile.
On va changer de sujet. J'aimerais qu'on parle de ce policier qui a été violemment blessé, grièvement blessé près de Valenciennes, percuté par un véhicule qui transportait
de la drogue qui tentait de se soustraire à ce moment-là à un contrôle douanier. Nouvel incident évidemment dans ce qu'on appelle aujourd'hui les refus d'obtempérer. On va en parler avec vous Sandra Buisson puisque vous connaissez ce dossier, vous avez suivi l'affaire. De quoi s'agit-il? Quel est le profil de ce jeune homme et comment va le policier aussi aujourd'hui?
Alors ce policier, il était toujours hospitalisé en fin de matinée. Il souffre de multiples fractures, mais effectivement, comme on l'a annoncé très vite, son pronostic vital n'est pas engagé. Vous l'avez dit hier soir, il est un petit peu avant 23h30 quand un véhicule est poursuivi par les douaniers. Ils ont voulu contrôler ce véhicule et l'individu ne s'est pas arrêté. Donc d'autres équipages se mettent sur sa trace. Un équipage du groupe de sécurité et de proximité se met en place sur le rond-point d'Anzin pour faire barrage au véhicule en disposant à terre un dispositif qui permet de crever les pneus, oui. Ce qu'on appelle le système DIVA. Et sauf que le suspect prend le rond-point à l'envers, percute un policier de ce GSP avant de perdre le contrôle de son véhicule un peu plus loin, de foncer dans un poteau. Et là, l'individu prend la fuite à pied. Bon, il est rapidement interpellé. Il déclare être né en 93 au Maroc, être sans domicile fixe. On trouve dans sa voiture un poing américain, un couteau à cran d'arrêt. Il avait avec lui deux permis de conduire, un français, un belge, et une carte d'identité belge dont on ne sait pas si c'est une vraie carte ou une fausse carte, parce que nous avons joint son avocate qui dit qu'elle n'a pas connaissance qu'il ait la nationalité belge. Cet homme, il est déjà connu de la police pour des affaires liées aux stupéfiants, notamment une condamnation en 2016 à ce sujet. Et dans la voiture, les policiers, selon nos informations, ont saisi plus de 10 kilos de drogue. C'était réparti en 14 paquets côté passager du véhicule. Cet homme, il est marié. Il est marié à une Française. Il a trois enfants. Et il a d'autres condamnations à son actif, notamment des violences avec armes en 2019 et déjà un refus d'obtempérer en 2019.
On est sur du lourd, si je peux me permettre, Jean Messia.
On est sur du lourd, mais j'ai une question à poser aux représentants de la majorité ici présents. Est-ce que l'immigration est une chance pour la France?
Elle peut être une chance.
Avec ce genre de cas?
Ah ben non, certainement pas. Il est de nationalité française ou pas?
Alors, il est né au Maroc. L'identité qu'il donne, c'est celle d'un individu né en 93 au Maroc. Il s'avère qu'on a joint son avocate qui le suit depuis différents dossiers.
Il dit belge.
Il dit pas belge. Il a une carte d'identité belge dans ses affaires.
Et donc, il n'est pas français?
Alors, pour l'instant, on n'a pas...
S'il n'est pas français, j'espère qu'à l'issue de sa condamnation, qui, j'espère, arrivera rapidement, il sera expulsé.
Non, mais monsieur le député, vous savez très bien que des cas comme ça, il y en a des dizaines, peut-être des centaines de milliers en France, des cas de gens qui sont soit français d'origine immigrée, soit des étrangers immigrés. Donc, vous savez très bien que certaines immigrations, surtout quand elles arrivent massivement, ce qui est le cas, nous pourrissent la vie en France, aggravent l'insécurité, aggravent la délinquance, aggravent la criminalité, à telle enseigne que Gérald Darmanin, qui est jusqu'à présent a maintenu le logiciel progressiste intact, a été obligé de reconnaître le lien qu'il pouvait y avoir entre certaines immigrations et la délinquance et la criminalité. Et donc la question que se posent tous les Français, c'est que diable allez-vous faire pour mettre fin à cette situation.
C'est un débat très important et qu'il faut avoir, que les Français attendent. On va d'ailleurs l'avoir cet automne au Parlement, dans les deux chambres. Il y aura une loi sur l'immigration en début d'année prochaine qui a été annoncée par le président de la République. La délinquance, comme l'a bien dit le ministre de l'Intérieur cet été, il a été très courageux, je trouve, de mettre ces faits sur la table. On observe effectivement que dans la délinquance, il y a une surreprésentation des personnes étrangères. C'est d'accord. Un fait, ça mais fait peut-être il du mal à l'entente pour certaines... Pour
cette, il lui a fallu 40 certains, ans pour en arriver là.
Pour certains, pour certains bien-pensants.
Vous avez parlé du projet de loi. Qu'est-ce qui sera dit et qu'est-ce qui sera fait en matière de QTF? C'est là que le bât blesse aujourd'hui. Oui. C'est les reconduites
à la frontière. Le projet de loi, ce sera un projet de loi sur l'immigration. Il y aura plusieurs sujets qui seront abordés. J'imagine qu'on parlera d'immigration économique, mais là, ce n'est pas trop le sujet de notre discussion. On parlera de l'asile, qui est détourné à des fins... un des faits qui ne sont pas souhaitables et où il faut encore durcir les lois de l'asile. Et moi, j'attends, et d'ailleurs, le président de la République en avait parlé dans sa campagne, ça a été très peu relevé, moi, j'attends également que nous durcissions le sujet de la délinquance d'origine étrangère. Le président de la République avait dit pendant sa campagne que l'objectif doit bien être que les délinquants étrangers qui n'ont pas la nationalité française, n'ont pas à rester sur notre sol, il faudra donner les moyens supplémentaires à nos services pour que les obligations de quitter le territoire français, cette voie d'amélioration, soient réellement exécutées. Et sur le sujet de la double peine, je crois que là aussi nous avons brisé un tabou. Effectivement, moi ça ne me choque pas comme représentant de la nation de se dire qu'un étranger qui n'a pas la nationalité française, qui a été condamné pénalement pour des délits ou des crimes graves, à l'issue de sa peine, soit envoyé dans son pays d'origine.
Vous savez pertinemment que les OQTF n'ont jamais été aussi peu mises en œuvre, les obligations de quitter le territoire n'ont jamais été aussi peu mises en œuvre que sous le mandat d'Emmanuel Macron.
Ah non, c'est pas vrai.
Deux fois moins sous François Hollande.
Ah, subitement, les 26 à 25,
hormis l'année 2020, l'immigration n'a jamais été aussi importante et que par ailleurs, Emmanuel Macron, dans le en même temps macronien, effectivement, disait qu'il fallait éventuellement expulser ceux qui avaient commis des crimes et des délits et purger la peine. Et en même temps, il y a quelques jours, à propos d'ailleurs de son projet de loi sur l'immigration, disait qu'il fallait aussi que des immigrés, des personnes d'origine immigrée vivent absolument sur tout le territoire français, jusque dans les plus petits villages, j'allais dire franchouillards. Et histoire de bien changer l'ambiance et de bien répondre les problèmes partout. Mais il y a une autre question que je me pose à propos de cet homme. Vous avez dit qu'il était SDF. Mais il est marié, il a trois enfants.
C'est ce qu'il dit.
C'est ce qu'il dit.
Il est marié. Ses déclarations au premier abord.
Alors, peut-être que par sa femme, il a obtenu la nationalité française, ça c'est une question. Mais deuxièmement, de quoi vit-il? Et probablement, comme souvent, nous le subventionnons généreusement, et il doit avoir le RSA, les allocations familiales, les allocations de rentrée scolaire.
Son avocat dit qu'il a travaillé, après je ne sais pas s'il avait un emploi en ce moment. Mais...
Oui, enfin, on verra, mais on a toute chance, malheureusement, un petit peu comme le cas de la feuille d'allocation familiale que nous avons aperçue il y a quelques jours. Alors, il y avait 10 enfants, certes, mais nous
on ne sait pas, dans le cas de cet homme, s'il était toujours dans au sein du foyer familial.
S'il travaille, il n'était pas l'énergie atomique.
Vous avez raison.
Il travaillait probablement un petit boulot, et donc il perçoit des aides quand même.
D'après le tableau actuel, il était SDF et il est marié, il n'est pas divorcé. Mais on est d'accord, tout reste.
Ça ne veut rien dire.
Enfin, si on fait
absolument
le...
pas.
Ah ben, s'il est marié, théoriquement, il est toujours avec cette femme. Mais en tout cas, le tableau malheureusement très classique, il faut le compléter, c'est parfois de délits, voire de crimes extrêmement graves, et par ailleurs pour des personnes que nous subventionnons, que nous entretenons, et que
Sandra,
tous les Français de
justement,
toute origine
puisqu'on parle
financent.
Des délits, aujourd'hui,
c'est insupportable.
Les peines encourues, c'est quoi dans le code actuel?
Alors là, de toute façon, on n'est plus sur du refus d'obtempérer. C'est une tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Donc en fait, on sort du cadre du refus d'obtempérer. Et d'ailleurs, il sait à quoi s'attendre pour un refus d'obtempérer, puisqu'il a été condamné, c'était en 2019, donc pour un refus d'obtempérer qui n'avait pas donné lieu ensuite à des violences. Il avait été condamné à 10 mois de prison, dont 4 avec sursis.
Alors, juste un dernier mot aussi, un dernier commentaire quand même qui me vient. Vous direz ce que vous voudrez, Jean Messia. On parle beaucoup des policiers, on parle beaucoup des pompiers. On oublie un peu que les douaniers aussi sont soumis à ce genre de faits, de délits. Alors qu'ils prennent des risques aussi, puisqu'ils sont souvent, évidemment, de par la nature de leur métier, postés aux frontières, qu'il y a souvent des passages de trafiquants de drogue et que donc ils sont particulièrement exposés.
Non, mais on peut généraliser, si vous voulez, à tous ceux qui portent l'uniforme et qui ont une capacité coercitive, que ce soit des gendarmes, des policiers, des douaniers. Ils sont tous logés à la même enseigne face aux brigands. Et je dirais que le gouvernement ne nous a pas vraiment rassurés sur cette question, parce que j'entends votre discours sur ce qui a été fait. Enfin, excusez-moi, Emmanuel Macron, il est président de la République depuis 2017. Donc quand vous nous dites que dans sa dernière campagne, il a des promesses en matière migratoire, que ne les a-t-il exécutées et promises lors de son dernier quinquennat? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le président de la République est allé en Algérie récemment. Il a quand même promis davantage de visas aux Algériens. Donc moi, je veux bien, si vous voulez, qu'on tienne un discours très ferme pour les Français, pour les rassurer. Mais dans les faits, on voit bien que le laxisme migratoire du macronisme se poursuit de plus belle. Voilà, avec tous les risques que ça engendre pour les Français.
Mais c'est-à-dire que déjà, on pourrait appliquer la loi. Elle ne l'est pas, véritablement. Et deuxièmement, la loi, le millefeuille des lois successives sur ce sujet-là aboutit à une inefficacité complète. En fait, la justice, elle est pour partie paralysée, il faut être clair. Et puis les associations pro-immigrationnistes permettent à toutes ces procédures de durer indéfiniment. Il faut faire un audit et il faut tout mettre à plat.
C'est l'objet de la loi sur l'immigration, notamment sur le sujet de l'asile.
Si c'est un projet de loi supplémentaire, ça ne fera que compliquer.
On ne pourra pas faire l'économie d'un débat approfondi sur toutes ces questions. On n'en doute pas. Et vous serez sur le grill à ce moment-là. Voilà, on va s'interrompre pour la deuxième partie de l'émission et puis on reviendra pour parler de ce procès du père
père qui tue le petit ami de sa fille, qui s'acharne sur lui, hein, à vrai dire, puisqu'il a reçu, je crois, 19 coups de couteau. Le procès a débuté hier. 90 minutes info, la dernière partie du débat, c'est juste après le flash de Mickaël Dorian. Rebonjour Mickaël.
Rebonjour Nelly, bonjour à tous. Dans le procès de l'attentat de Nice, près de 300 parties civiles témoignent à partir d'aujourd'hui de l'atrocité de ce qu'elles ont vécu. Après avoir convoqué enquêteurs, experts techniques et spécialistes des traumatismes, la Cour va consacrer les 5 prochaines semaines à entendre ces personnes. Certaines étaient présentes le soir de l'attaque et ont été blessées ou traumatisées. D'autres ayant perdu un ou plusieurs proches. La France insoumise dans l'embarras alors qu'en pleine conférence de presse ce matin, une question a été posée au sujet de l'affaire Quatennens. Des députés insoumis se sont défendus d'avoir tergiversé sur la mise en retrait de leurs collègues. Ils ont toutefois reconnu tâtonner encore face à la gestion des cas de violence sexiste au sein du mouvement. Et puis le secrétaire général des Nations Unies met en garde contre un hiver de grogne. Déclaration d'Antonio Guterres en ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU ce mardi. Il a ajouté que ces crises menaçaient l'avenir même de l'humanité et le destin de la planète. Durant les prochains jours, des dizaines de chefs d'État et de gouvernement du monde entier vont prendre la parole lors de cette grand-messe diplomatique.
Merci beaucoup, Mickaël. On va en venir à cette affaire dont on avait beaucoup parlé il y a 8 ans déjà. Ça avait provoqué beaucoup d'émotions lorsque un jeune homme de 20 ans avait été tué par le père de sa petite amie. Pourquoi ? Parce qu'il ne supportait pas cet homme d'origine kurde et pourtant naturalisé français. Turc de nationalité hein, à l'origine, puis naturalisé français. Eh bien, il ne supportait pas que sa fille fréquente quelqu'un qui n'était pas issu de la même communauté. Bonjour Noémie Schulz, vous êtes à cette audience avec Sacha Robin. Sur quoi repose au fond la défense de l'accusé, de cet homme aujourd'hui ?
Alors, Mehdi Nulug, dont on rappelle qu'il avait fui la France hein, dans la foulée des faits. Il s'était enfui en Turquie et il a passé 4 ans à échapper à la justice française. Et il a fallu l'acharnement des parents de Julien Videlaine, de leur avocate, pour obtenir l'extradition de Mehdi Nulug. Depuis, il a reconnu les faits. Hein. C'était compliqué pour lui de ne pas le faire, puisque sa propre fille était témoin de la scène. La petite amie de Julien, elle-même, avait été blessée et elle avait immédiatement dit aux enquêteurs que c'est son père qui avait tué son petit ami. Donc il a reconnu les faits, mais depuis le début, sa ligne de défense consiste à dire que ce soir-là, quand il rentre chez lui, il est très inquiet parce qu'il n'arrive pas à joindre sa fille. Il entend du bruit à l'étage, dans la salle de bain, et là, il découvre sa fille et un jeune homme nu, et il pense qu'il s'agit d'un homme, un intrus qui est rentré dans la maison, qui tente d'agresser sa fille. C'est une version à laquelle, bien sûr, les proches de Julien Videlaine n'ont jamais cru. Pour le moment, il semblerait que l'accusé reste sur cette ligne, même si ce matin, poussé dans ses retranchements par la présidente, qu'il a notamment interrogé sur la sexualité de sa fille, sur comment il appréhendait ces choses-là, il a eu cette phrase: c'était un choc pour moi, ça m'a fait perdre l'esprit. Dans notre culture, ça n'existe pas. Alors il sera longuement interrogé sur les faits demain en fin de matinée ou demain après-midi, et on verra effectivement quelle est sa position. Mais jusqu'à présent, c'était de dire presque qu'il avait agi en légitime défense.
Restez avec nous, on vous fait participer à ce débat. Bien sûr, vous intervenez quand vous voulez, quoique à distance, vous nous entendez bien. Et puis on aura d'autres questions à vous poser. Jean Messia, première réaction à cette affaire que sans vous, nous avez suivie à l'époque. Déjà, c'est un beau coup que d'avoir pu le ramener et de le juger en France. Voilà.
Mais moi, si vous voulez, je m'interroge. Imaginez que ce soit un père français qui avait assassiné sa fille parce qu'elle sortait avec un arabe ou un noir ou un musulman. On aurait eu la terre entière des médias, des partis politiques, des progressistes, des gauchistes qui se seraient érigés en criant au racisme de la France. Là, il s'agit clairement d'un acte raciste. Alors moi, je m'en fiche de tout, ce fatras tribaliste au nom duquel ce crime est commis, soi-disant les crimes d'honneur au nom de la religion, au nom de je ne sais quelle croyance. Ça reste un crime xénophobe, un crime raciste, de quelqu'un qui ne supporte pas que sa fille sorte avec quelqu'un d'une autre communauté ou d'une autre origine. Voilà ce que j'ai à dire. Et je suis très surpris que tous les ayatollahs rutilants de la lutte contre le racisme, de la lutte contre les xénophobies, etc., ont aujourd'hui perdu leur langue.
Noémie, c'est un point intéressant qu'il soulève finalement. Est-ce que c'est une qualification retenue dans cette affaire ou pas du tout ?
Alors, Muhittin Ulug, il est renvoyé pour le meurtre de Julien Videlaine, mais évidemment, ce qui sous-tend, et pour cela, il encourt la réclusion de 30 années de prison, mais bien sûr, la question qui sous-tend et qui est au cœur de ces débats, c'est la raison de ce passage à l'acte. C'est ce qu'on essaye d'aborder aujourd'hui, mais il est important de souligner, on entend cet après-midi des témoignages de proches de l'accusé, un neveu, une belle-sœur, son épouse en ce moment, des membres donc de la communauté kurde, et on sent qu'il y a une réelle difficulté à prendre la parole. On a entendu par exemple une jeune fille qui était une amie très proche de la fille de l'accusé, c'est sa confidente à l'époque, et qui à la barre a dit « moi je comprends pas ce que je viens faire ici, je comprends pas ce qu'on attend de moi, elle ne se souvient de rien, elle ne se souvient pas de ce qu'elle avait dit aux enquêteurs à l'époque ». Le neveu de Muhittin Ulug, il dit également il n'était pas présent lors de cette scène. Encore une fois, il y avait trois personnes présentes, la victime, l'agresseur et la jeune fille. Mais il a un avis sur la question et il dit oui, moi je pense qu'effectivement il a pu avoir peur et il a pu agir en état de légitime défense. L'avocat général d'ailleurs l'a un peu séché en lui disant est-ce que vous vous rendez compte de ce que les gens vont penser de la communauté kurde après avoir entendu un témoignage comme le vôtre. Donc il y a bien sûr cette question-là, des raisons de ce passage à l'acte, et on va voir si l'accusé est capable d'évoluer dans ses explications.
Au contrario, vous notiez aussi la dignité impressionnante des proches de la victime là pour le coup.
Oui, il faut s'imaginer que ça fait plus de 8 ans que les parents de Julien Videlaine attendent ce procès. Il a été tué en juillet 2014, donc il y a plus de 8 ans. Le procès a mis tant de temps à s'ouvrir, c'est notamment parce qu'il y a eu cette fuite pendant 4 ans de l'accusé. Et puis au mois de mars dernier, il devait s'ouvrir et il y a eu des problèmes de conflit d'intérêts entre les différents avocats. Et donc aujourd'hui, ses parents, la sœur de Julien Videlaine aussi qui est présente, ils attendent bien sûr que la justice passe. Ils vont prendre la parole sans doute en fin de journée pour parler de la victime, pour parler de ce fils, ce jeune homme qui vivait une histoire d'amour depuis près de 2 ans avec la fille de l'accusé et qui l'a payé de sa vie.
Merci beaucoup, merci Noémie Schultz pour toutes ces précisions, et Sacha Robin, on vous retrouvera sans doute un petit peu plus tard à propos de cette affaire. Un mot, un commentaire sur peut-être sur ce qu'il disait à propos de l'appréciation qu'on peut avoir ce genre de crime.
Il est très étonnant tout de même que n'ait pas été retenu avec des circonstances aggravantes. On sait que la loi, avec insistance, considère comme circonstance aggravante, et cela compte considérablement dans l'enquête, dans le procès et dans le jugement final, quand est à l'origine de la violence et qui plus est de l'homicide, un acte commis pour des raisons liées à l'origine, la religion, l'orientation sexuelle éventuellement ou autre. Et donc là, a priori, et cela semble être confirmé par le fait qu'il avait une relation depuis 2 ans avec cette jeune fille.
Charles Sizenstuhl, pour le dernier mot sur cette affaire qui évidemment nous a tous un peu...
C'est un crime abominable. C'est l'importation sur notre sol de pratiques barbares étrangères. Là, en l'occurrence, de montagne du Moyen-Orient, si j'en comprends bien l'origine de ce monsieur. Et ce que je veux dire, c'est que, hélas, je pense que ce fait divers nous saisit tous, parce que c'est la face émergée de l'iceberg. Et c'est en fait la face émergée hélas, trop nombreux jeunes filles ou jeunes garçons qui, dans notre pays, sont empêchés de vivre leur vie amoureuse ou sexuelle et qui vivent sous l'emprise et l'oppression des cultures de leur pays d'origine, qu'elles soient généralement d'Afrique ou du Moyen-Orient. Et j'espère que la justice sera intraitable avec cet assassin.
Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. C'est déjà la fin de l'émission. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de 90 minutes info. On l'espère avec des sujets un tout petit peu plus positifs, parce que c'est quand même une drôle de manière de commencer la semaine, et on s'en excuse aussi. Voilà. Bonne soirée sur notre antenne.
L'actualité fait loi.